Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ils ne sont plus dans la rue à faire brûler des pneus, ils ne sont plus sur la route à bloquer la circulation, voire même à l'entrée du Mont-Saint-Michel. Non, ils sont retournés chez eux, au travail, dans leurs champs et leurs exploitations. Les agriculteurs, puisqu'il s'agit d'eux, vous l'aurez compris, ont arrêté de faire la une des médias. Mais la crise agricole, elle, est-elle vraiment derrière ? Voilà pour cette émission ce matin, où en est-on de la crise agricole ? Je reçois, alors il y a un certain nombre d'agriculteurs, puisque c'est le terme générique, autour de la table. Jean-Jacques Manfrinato, vous êtes éleveur de volailles, bonjour.
Bonjour.
Alain Dufil, vous êtes céréalier et diacre, bonjour.
Bonjour.
Et Jean-François Douming, vous êtes producteur laitier, bonjour.
Bonjour.
Et puis nous rejoindra un petit peu plus tard dans cette émission, Sébastien Garcia, qui est journaliste pour Trade Union, spécialisé sur les questions du monde agricole. Alors au début de cette émission, je voulais avec vous, avant qu'on parle de cette crise agricole, des mesures qui ont été prises par le gouvernement, par l'Europe, et puis d'essayer de voir est-ce qu'elles vous ont impacté, est-ce que ça a changé quelque chose et quel est l'avenir pour vous, que vous nous racontiez un petit peu vos métiers. Voilà, parce que tout le monde n'est pas du tout familier de ce monde-là, et probablement que c'est une grande partie du problème, c'est qu'on ne sait pas en fait ce qu'il y a derrière les étalages des magasins dans lesquels on va. Alors Jean-François Douming, vous êtes producteur laitier, si vous deviez nous présenter votre exploitation rapidement, vous me diriez quoi ? Vous avez combien de bêtes, comment vous travaillez, de quelle heure à quelle heure et combien d'heures par semaine?
Oui, bon, alors, moi je travaille sur une exploitation familiale. Je suis installé depuis mars 2013 avec mon père et mon oncle. Donc, nous avons une ferme qui compte aujourd'hui une centaine de vaches adultes en production. Donc, nous faisons un quota, une production annuelle de 1 million de litres de lait environ. Avec une activité à côté de céréales, qui nous permet aussi de nourrir le troupeau.
C'est une grosse exploitation ou je sais pas, c'est la taille moyenne en France ou...
Ben, répartie au nombre de gens qui travaillent dessus, bon, c'est plutôt moyen, quoi. Et à côté de ça, là, depuis le mois de mai, nous avons développé un atelier de crème glacée. Donc nous transformons notre lait et la crème de nos vaches pour en faire pour faire des glaces fermières que nous commençons à commercialiser.
D'accord. Alors, vous travaillez combien d'heures par semaine ? Ce matin, vous êtes levé tôt pour la traite.
Oui, c'est
avant ça. De venir faire l'émission de radio, c'est-à-dire que vous commencez vos journées à quelle heure ? Vous les finissez à quelle heure ? Vous travaillez combien d'heures par semaine ?
Bon, après, pour faire simple, on commence le matin en général à 5h30, la traite. Puis ensuite, suit le soin des animaux. L'alimentation, nettoyage, couchage, on va dire la petite routine. Et ensuite, nous avons tout le travail aussi administratif qu'on nous demande pour répertorier ce qu'on fait sur nos animaux, l'identification quand on a des naissances. C'est passionnant, mais c'est vrai que l'agriculture en elle-même, aujourd'hui, prend un peu moins, on va dire, de temps de travail que le travail administratif qu'on a à faire aussi à côté, quoi.
Ça fait en volume horaire semaine, vous sauriez dire ? Vous faites quoi ? 5 heures, 50 heures, 60 heures
Je pense qu'on est plutôt à... Allez, en période de routine, on fait du 70-80 heures. Et après, quand on a les semis, c'est un peu plus, quoi.
D'accord, 70-80 heures, c'est pas mal. Si vous répondez pas si c'est indiscret, mais vous gagnez combien par mois, vous sauriez dire ?
Bon, je gagne assez vite fait. Là, ça fait depuis le mois de février qu'on ne s'est pas versé un centime sur nos comptes perso, quoi. Dû à la baisse des prix. Donc, on essaie de payer tant bien que mal nos fournisseurs, là. Et là, aujourd'hui, on a du mal, quoi.
Alors, avant qu'on passe aux autres, je ne sais pas, aujourd'hui, en date du 3 novembre, comment se porte votre exploitation ? Donc, on a entendu parler la manifestation des producteurs laitiers à la rentrée avec les histoires de Lactalis, donc ces producteurs qui se plaignent de vendre en fait à perte leur production. Vous, dans votre exploitation, est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous vendez à perte aussi ? Quelle est la situation à date ?
Ben aujourd'hui, on est dans le même cas. Enfin, moi, je ne livre pas chez Lactalis, mais on est dans le même cas qu'eux. Bon, on a un prix qui est un peu plus élevé que ces producteurs-là, mais faut savoir qu'un groupe aussi important que Lactalis, qui pèse fortement sur le marché aujourd'hui, en tire aussi les autres industriels laitiers vers le bas du fait du volume qui redistribue sur le marché, quoi. Donc nous perdons de l'argent.
C'est-à-dire vous vendez à perte aussi ?
Ah oui, mais concrètement, en fait, pour vous donner une approximation par rapport à l'année dernière, au volume de lait qu'on produit, on a 10 000 euros de recettes en moins tous les mois.
Pourquoi, par rapport à l'année dernière ?
Par rapport à la baisse du prix.
Parce que la baisse du prix date de cette année ?
L'an dernier, il y avait déjà des problèmes de prix sur le lait qui se sont accentués en 2016.
D'accord. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils se sont accentués en 2016 ? C'est la fin des quotas.
Il y a ça qui est rentré en jeu. Et puis, bon, il y a plusieurs facteurs. Enfin, on en a parlé tout à l'heure. L'embargo russe, notamment, par rapport à notre laiterie, là, qui est Sodiaal, ça impacte directement notre prix à nous de 30 euros la tonne, quoi. Et 3 centimes sur le prix du lait, quoi.
Voilà, donc il faut dire, même si on l'expliquera un petit peu plus loin, que voilà, la crise de la France avec la Russie à la faveur de la crise ukrainienne a entraîné le fait qu'il y a un embargo d'une partie des produits européens de la part de la Russie, dont le lait, alors que c'est un marché d'exportation important, et pour vous, ça vous impacte directement. Voilà, donc ce que vous nous dites, c'est que vous travaillez entre 70 et 80 heures par semaine, et depuis février, vous êtes versé aucun salaire.
Voilà, c'est ça.
Et vous vendez à perte.
Oui.
Alors, on continue ce tour de table. Alain Dufil, donc vous êtes céréalier. Vous pouvez nous dire, c'est pareil, nous décrire un peu votre exploitation et puis nous dire aussi quelles sont, je sais pas, vos conditions de travail et salariales.
Alors, voilà, je travaille 153 hectares au confluent de l'Ariège et de l'Ers, dans la basse vallée de l'Ariège, avec aussi des terres sur les coteaux du Lauragais. Donc, on fait dans la vallée une répartition de... On a 85 hectares de maïs et une quarantaine d'hectares de blé, et de blé dur. Et dans les parties de coteaux, on a un assolement réparti entre tournesol, blé dur, pois, colza, et voilà. Et donc,
vous faites ça depuis longtemps ?
Oui, j'ai commencé à travailler à ce poste parce que j'ai un statut de salarié. Si vous voulez, sur cette structure, on est 2 salariés. Sachant qu'on moissonne nous-mêmes nos cultures, on a aussi une partie irrigation, puisque le maïs est irrigué, ben on fait tout, on a notre propre pompage, donc on fait une activité de bois de chauffage aussi pour compléter un peu, et donc je suis à ce poste depuis 1989.
D'accord. Et alors, même question, je ne sais pas, vous travaillez combien d'heures par semaine, vous gagnez combien par mois? Si ce n'est pas indiscret, hein, vous n'êtes pas du tout obligé de répondre, c'est pas
voilà,
une enquête de police, mais
non,
c'est pour
non,
donner
pas
un
de
ordre
problème,
de grandeur aux auditeurs.
Si vous voulez, jusqu'à il y a 2 ans, j'avais donc, il y a une convention, comme j'ai un statut de cadre salarié, il y a une convention collective, et j'étais payé 2200 euros par mois. Et j'ai tiré la sonnette d'alarme en disant qu'à ce prix-là, on allait dans le mur. Donc j'ai fait baisser mon salaire à 1500 euros par mois. Mais,
et vous travaillez combien d'heures par semaine ?
Je travaille entre 50 et 60 heures par semaine, avec une partie de comptabilité et de papier qui est importante, quoi. C'est en comptant les heures comme ça qui sont au bureau. Mais bon, ça n'empêche que c'est un beau métier. Moi, je travaille, j'ai souvent les Pyrénées en face de moi qui sont magnifiques. On voit souvent au détour d'un champ... Des chevreuils, des lapins, tous les oiseaux qu'il y a partout, c'est sûr. Mais bon, ça, on a besoin, ça nourrit pas son homme. Et donc, c'est, si vous voulez, moi j'ai un salaire qui est obligé, mais jusqu'à quand les banques vont nous suivre ?
Alors,
parce que la situation générale...
La situation, c'est donc, quelle est la difficulté pour vous, céréaliers ?
La difficulté, c'est qu'on est confronté depuis 2 ans ou 3 ans à une baisse du prix des céréales, du fait du marché mondial, et qui fait qu'on ne couvre pas nos frais de production. Donc si vous voulez, depuis 3 ans, on a une perte comptable qui s'ajoute, avec des difficultés de trésorerie. Donc les banques nous suivent, parce qu'ils font confiance, il y a des terres. S'il y a un problème, on nous forcerait à vendre les terres. Mais jusqu'à quand ça va durer, quoi.
Et alors c'est le cas des céréaliers en général,
ouais,
en France.
Des céréaliers en France, c'est général.
C'est une crise conjoncturelle. Est-ce qu'il y a une raison en fait à cette baisse des cours mondiaux ?
Alors, ben, c'est le marché mondial. On vend, notre prix est décidé par le marché mondial.
Oui, je veux dire, le marché mondial date pas d'il y a deux ans, donc c'est
oui,
une difficulté qui est apparue il y a deux
s'il
ans.
S'il est un peu plus dur, si le prix du fret maritime est très bas et qu'on peut avoir dans le port de Barcelone des bateaux qui arrivent pour très peu cher d'Ukraine ou d'Amérique, eh bien, c'est le prix de ces céréales dans le port de Barcelone qui décide du prix de toute l'Europe. Et nous, il faut s'aligner sur ce prix et il faudrait se débrouiller à produire à ce prix-là. Et c'est pas évident, c'est très difficile parce que même en faisant des bonnes récoltes, eh bien, on passe pas. C'est avec beaucoup de difficultés.
Parce que vous dites donc en Ukraine, il y a moins de, enfin, le niveau de vie est pas le même, et aux États-Unis, ils ont pas les mêmes contraintes.
Voilà, aux États-Unis, ils ont des surfaces immenses par agriculteur. Ils ont des tas de conditions de production qui ne sont pas du tout les mêmes. Ils ont droit aux OGM, ils ont droit à des désherbants qui, chez nous, sont interdits. Et en Ukraine, le salaire d'un chauffeur de tracteur, en Ukraine, ça doit être 100 à 100 euros par mois. Donc, y a des tas de choses. On ne peut pas lutter, quoi.
Donc ça veut dire que depuis deux ans, vous travaillez aussi à perte ou...
L'exploitation travaille à perte. Moi, je suis toujours payé. Mais bon, ça ne change pas grand. Jusqu'où ça ira, quoi. Voilà.
Alors, on continue ce tour de table avec vous, Jean-Jacques Manfrinato. Alors, vous étiez venu, donc, je crois que c'était au printemps, pour faire une émission à l'occasion de la crise...
Oui, si je me souviens bien, c'était au mois de mars.
Au mois de mars, à l'occasion de la crise agricole. Et puis, donc, surtout dans le sud-ouest, donc, il y avait cette histoire de grippe aviaire. Alors, on peut faire l'idée aussi, c'était de faire un point avec vous, presque, ça fait un peu plus de six mois, du coup. Vous pouvez nous représenter votre exploitation et nous dire, et répondre un peu aux mêmes questions, et nous dire où vous en êtes.
C'est une exploitation sur le secteur auto-rivain, quoi, à côté de mes collègues, qui est ciblée sur le gavage de canard, production palmipède et production de poulet label, et également tout ce qui est production fermière, poulet, pintade, volaille festive. Au jour d'aujourd'hui, la production, tout ce qui est poulet et vente directe, bon, n'a jamais été stoppée. La filière palmipède, elle a été stoppée, comme on en a parlé, pendant 5 mois. Au jour d'aujourd'hui, bon, l'activité a redémarré, certes, péniblement. Vous dire quoi, les clients, on a noté une diminution des clients.
Donc vous vendez directement, il faut le dire ça?
Oui, on vend une partie directement au magasin sur l'exploitation et une autre partie, on vend en travail avec une coopérative.
Donc voilà. les gens sont revenus après...
Quelques difficultés pour le redémarrage de la filière, voilà. On n'a pas encore trop de recul. Les gens ne savent peut-être pas que les canards sont revenus sur l'exploitation. Les gens sont peut-être méfiants. Au jour d'aujourd'hui, je sais qu'une vaste campagne publicitaire va être lancée par le CIFOC, justement, pour...
Le
syndicat interprofessionnel de la filière palmipède.
D'accord.
Voilà, tout ce qui est filière foie gras.
Pour relancer la...
Pour relancer un petit peu le marché. Voilà, pour dire...
Alors juste cette crise, donc ça a eu des conséquences financières. Vous me disiez en préparant l'émission, c'est-à-dire que cette année, vous allez travailler à perte.
Oui, pour nous, c'est une année blanche, quoi. Voilà. Les 5 mois d'inactivité nous ont fait perdre toute une partie du bénéfice, quoi.
D'accord, l'État avait promis entre 250 et 300 millions d'aides à cette filière.
Oui.
Est-ce
oui,
que vous les avez vus venir ces euros promis?
Sur la partie Haute-Garonne, 50% des aides ont été allouées aux éleveurs et gaveurs. Ces 50% ont été versés au mois de juillet, fin juillet si mes souvenirs sont bons. Au jour d'aujourd'hui, la seule chose on sait, il n'y a aucune garantie, on devrait percevoir 20% de plus des aides d'ici fin octobre, si c'est vraiment décidé. Et le reste des aides, les 30%, devraient être soldés courant janvier 2017.
Alors, et du coup, ça veut dire que cette année, vous travaillez à perte, c'est ce que vous...
Ah, on travaille à perte, tout à fait.
Voilà. Ouais. Alors, hormis cette crise de la grippe aviaire, vous, en général, dans les éleveurs de volailles, en France, est-ce que vous vous en sortez ou est-ce que vous êtes contraint face aux mêmes difficultés? C'est-à-dire qu'on trouve des volailles qui viennent d'ailleurs qu'en France et qui coûtent beaucoup moins cher et qui ne sont pas oui, élevées avec les mêmes contraintes.
On est exactement sur les mêmes cas de figure que toutes productions confondues sur la filière française. S'en sortir, vous me posez la question. Oui, on s'en sort en jouant une carte de... On essaye de se diversifier dans les activités et de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. En ce qui concerne la problématique, eh ben on a la même que les autres. On a beaucoup de volailles qui rentrent de l'étranger. que ça soit du poulet, que ça soit de la pintade, que ça soit du chapon, que ça soit des canards gras. Tout, on a notamment beaucoup de problèmes avec les filières de l'Est. C'est pas pour dénigrer, c'est pas ça du tout. Ils n'ont pas du tout les mêmes contraintes environnementales. Ils n'ont pas, le cahier des charges n'est pas du tout le même que le nôtre. Et quant à la main d'œuvre, elle est totalement dérisoire comparée à la main d'œuvre française.
Vous pouvez donner des différences de prix, c'est-à-dire que
des différences.
Ils arrivent à casser le marché. Enfin, quelle différence de prix ils arrivent à faire avec vous malgré le transport?
Un cas comme je vous ai énuméré tout à l'heure, au mois de mars, je vais mettre le doigt dessus. Leader Price a commercialisé des magrets de canard en provenance de Bulgarie à 8,89€ le kilo.
Sachant qu'en général, ils sont à combien?
Sur les grandes surfaces françaises, vous les touchez à 14-15€ le kilo, minimum, quoi. Voilà.
Alors que l'État français avait dit que...
Ben, normalement, l'État français nous avait dit qu'une régulation allait être faite par rapport au marché pour éviter, pendant les temps de crise français, de ne pas faire entrer de matières premières venant de l'étranger. Rien n'a été fait à ce niveau-là. Je vous dis, on a eu 950 tonnes de magrets qui sont arrivées en provenance de Bulgarie, qui ont été diffusées dans les magasins Leader Price.
Vous travaillez combien d'heures par semaine, M. Manfrinato? À la louche.
Je n'ai pas l'habitude de les compter. Je sais que mes journées sont rythmées en moyenne entre 13 et 14 heures du matin. Par jour. J'attaque à 4h30 du matin et j'arrête le soir. C'est pas avant 21h. Quoi.
Voilà. Alors, Alain, c'est vrai qu'on entend souvent ce chiffre. Alors, l'idée, c'est pas de résumer vos métiers à la difficulté que je vais citer, parce qu'on a compris que c'est des beaux métiers, c'est des métiers que vous aimez. Vous faites aussi en dépit de cette difficulté. Mais bon, autour de la table, voilà, il y a des gens qui travaillent entre 50 et 80 heures par semaine et qui aujourd'hui, en fait, s'en sortent pas d'une certaine manière. Enfin, pas d'une certaine manière. À vous entendre, c'est le cas. En tout cas, financièrement, c'est très problématique. Au bout de la chaîne, vous me disiez en préparant l'émission qu'il y a, voilà, il y a, c'est quoi? C'est un agriculteur sur deux. Un agriculteur qui se suicide tous les deux jours, c'est ça?
Oui, en France, il y a un suicide d'agriculteur tous les deux jours. À quelques virgules près.
Et quand vous en parlez, je sais pas, quand vous êtes venu à l'émission, quand vous en parlez avec d'autres collègues, vous aimez vos métiers, mais vous êtes de fait, vous continuez à être inquiet. Enfin, il y a pas de.
Oui, des fois, on se demande si on pourra faire ce métier l'année suivante. On se culpabilise, on se dit je suis pas bon, j'ai pas pris tel virage, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Mais quand on est dans une dynamique. Qu'il y a des syndicats ou des associations de producteurs, que les gens parlent entre eux, on se serre les coudes, mais il y a toujours des gens qui sont un peu isolés, ou pas, je ne sais pas, je ne suis pas assez au courant des cas en question, mais on imagine que des gens peuvent se culpabiliser à tel point qu'ils estiment que leur vie ne vaut pas le coup.
On va faire une première pause musicale et puis après on va voir avec nos autres invités qu'on va joindre, entre autres donc Sébastien Garcia, journaliste pour Trade Union, journal spécialisé dans le monde agricole, sur les causes de cette crise, pour faire écho à ce que vous venez de nous dire, et puis les remèdes qui ont été avancés par le gouvernement français et l'Europe. Et puis avec vous à la fin, on reviendra, vous restez là, hein, mais on aura vos échos sur ces fameux remèdes avancés, leur efficacité et quel avenir vous voyez à vos professions. Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, cette émission Vivante Église, où en est-on de la crise agricole ? Donc, l'idée de cette émission, je le rappelais en introduction, est de faire un point, même si les agriculteurs ne font plus la une des médias sur la crise agricole. Voilà, c'est le luxe de cette émission de ne pas être toujours dans le flux tendu de l'actualité. Je vous rappelle qu'en plateau, il y a Jean-Jacques Manfrinato, qui est éleveur de volailles, Alain Dufil, qui est céréalier et par ailleurs diacre, Jean-François Doumingue, vous êtes producteur laitier, et nous a rejoint donc en plateau Sébastien Garcia, qui est journaliste pour le Trait d'Union Paysan. Alors, dans cette deuxième partie d'émission, c'est surtout vous, Sébastien Garcia, qui allez avoir la parole, et puis on fera réagir en fin d'émission nos différents agriculteurs présents en plateau sur ce que vous nous aurez dit. L'idée, c'était, après avoir fait ce panorama, on a compris les raisons, en fait, de cette crise, mais c'était pas le premier objet, c'était de revenir avec vous sur les causes et les remèdes. Alors, les causes de la crise, ils sont très différents d'un secteur à l'autre. On a cité au début de cette émission l'embargo russe. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que cette histoire d'embargo russe, s'il vous plaît ?
C'est au départ une crise politique, l'embargo de la Russie sur des pays en provenance d'Europe, des États-Unis, Canada. La Russie a fermé ses frontières à nombre de productions, donc ce qui a touché directement les productions qui étaient surtout à vocation exportatrice en France. On parle de viande, on parle de lait, on parle donc de bovins, d'ovins, d'une multitude de productions. Et ce qui fait que ce débouché donc qu'était la Russie s'est totalement fermé. Dans le cas du lait, on était déjà dans un contexte où la Chine avait aussi énormément réduit ses importations, donc ce qui avait déjà conduit à avoir déjà trop d'offres de lait sur le marché mondial. Donc la crise russe n'a fait qu'accentuer déjà un état de marché tendu. Et ça a été évoqué tout à l'heure, c'est rajouté à cela donc la fin des quotas donc décidée en Europe.
Alors c'est ça, la fin des quotas laitiers. Expliquez-nous en fait exactement de quoi il s'agit. C'est-à-dire que la France, le marché de la vente du lait en fait est libéralisé, c'est ça en Europe. Ouais. Mais la France avait quoi, un régime de faveur qui l'a protégé encore pendant quelques temps ?
Non, c'est que entre les États membres, il y avait été décidé donc des quotas de production de lait par pays dans le but de maintenir une production limiter la surproduction, ce qui était surtout l'objectif premier. Et il a été décidé au niveau de l'Union européenne de supprimer ces quotas. Donc ça a été des décisions qu'on qualifiera de libéralistes, qui seront qualifiées de libéralistes par certains, ou d'entrave à la concurrence. Bon, il y a eu pas mal d'arbitrage au niveau de l'OMC, au niveau de l'Union européenne, et donc ces quotas ont été supprimés. Donc en 2015.
Avril 2015, oui.
Donc, alors il faut juste rappeler que on parle des fois de surproduction de lait en France. En fait, depuis le début, depuis l'existence, la création des quotas laitiers, jamais la France n'a consommé la totalité des quotas auxquels elle avait droit. C'est-à-dire que chaque pays avait un quota de lait à ne pas dépasser sous peine d'amende ou de pénalité, tout ça donc pour maintenir pour éviter la surproduction. La France n'a jamais atteint le volume de production auquel elle avait droit, donc il n'y a jamais eu de surproduction de lait en France depuis le début. Il me semble qu'entre 2014 et 2015 on était 20% en dessous du quota de production de lait auquel la France pouvait prétendre. Mais par contre, à côté de ça, on avait des pays dans le nord de l'Europe, vous avez l'Allemagne, l'Irlande, le Danemark, qui eux ont des exploitations laitières qui ne sont pas du tout sur le même calibre que les nôtres, qui n'ont pas des systèmes de production identiques aux nôtres, qui eux par contre étaient dans les starting blocks, n'attendaient qu'une chose, c'est que ces quotas soient supprimés pour pouvoir aller chercher des marchés à l'export et augmenter la production.
Et donc c'est ce qui s'est passé pour le marché français, c'est ça ?
C'est ce qui s'est passé pour le marché français, donc on s'est retrouvé avec un afflux de lait, donc, puisque ces pays d'Europe du Nord ont produit autant qu'ils ne pouvaient. Donc le marché était déjà engorgé par baisse des importations de la Chine, par l'embargo, et on s'est retrouvé donc avec un afflux de lait et avec un marché donc à court du lait qui s'est littéralement effondré.
Donc, l'embargo russe, la fin des quotas laitiers, qu'est-ce qu'il y a comme autre grande cause? Alors, nos différents agriculteurs nous ont dit que, grosso modo, la grande difficulté, c'était qu'ils étaient en concurrence avec des gens qui n'avaient pas les mêmes contraintes salariales, ni les mêmes contraintes environnementales ou phytosanitaires, je ne sais pas comment il faut le dire. Est-ce que c'est le cas pour tous? Et par exemple, pour les céréaliers, est-ce que c'est aussi la difficulté?
Pour les céréaliers, de toute façon, la distorsion de concurrence, on l'a sur à peu près toutes les productions. Ça a déjà été dit par les intervenants précédents. On n'a pas, la France a quand même une tradition de production de qualité. On a aussi des normes, qu'ils soient sociales, qu'ils soient environnementales, qui sont parmi les plus drastiques, les plus sévères du monde. Ce qui fait aussi qu'on a quasiment les meilleurs produits. Sauf que, au moment, en bout de chaîne, nous avons donc des produits qui sont fatalement plus chers. Donc c'est très bien de pouvoir viser les marchés haut de gamme ou marchés de niche, sauf qu'il y a quand même un vaste marché sur lequel on se fait complètement dépasser, qui est sur lequel on est concurrencé par des produits qui arrivent de pays voisins avec des conditions, des salaires qui sont bien moins élevés, des produits, Alain Dufil en parlait, des produits phytosanitaires qui sont utilisés dans ces pays-là, qui sont pourtant partie intégrante de l'Europe, mais qui sont interdits chez nous. Donc il y a sur pas mal de points, c'est vrai que les produits français ne peuvent pas lutter. On est bon sur le produit haut de gamme, mais pour le moyen de gamme, et encore plus le bas de gamme, on est hors compétition complètement.
Ça veut dire que en fait on est condamné en fait aujourd'hui à ce que cette distorsion de concurrence, comme vous dites, fasse que seuls les produits haut de gamme français à terme seront à concurrence sur le marché français?
Pas condamné. Après, tout dépend. C'est aussi une question de volonté politique. On parlait donc de prix justement qui font le yo-yo, qui peuvent monter très haut et descendre très bas. Auparavant, l'Union européenne, dans le cadre de la politique agricole commune, on avait instauré des outils de régulation du marché, donc passer sur des rachats quand il y avait des surproductions, de quotas pour limiter la surproduction. Enfin, tout ça, tous ces outils justement de régulation visaient à amortir les crises, puisqu'on est donc sur des prix mondiaux. Les prix mondiaux, ils peuvent être très élevés s'il y a une catastrophe agricole, une sécheresse ou autre dans un pays, dans une zone qui est très fortement productrice, en Ukraine, ou aux États-Unis, au Canada, etc. Et à l'inverse, si ces pays qui produisent beaucoup, les plus gros producteurs ont des campagnes qui marchent bien, on se retrouve avec un afflux de produits, donc les prix se cassent la figure. L'Union européenne avait des outils de régulation qui permettaient justement de limiter pour le producteur, pour l'agriculteur, ces effets yo-yo. Et depuis une quinzaine d'années, en fait, l'Union européenne a successivement supprimé tous ces outils dans une logique de libéralisation, sur la croyance que les prix agricoles seraient toujours élevés, puisque la population mondiale augmente, donc il y aura toujours une demande, donc les prix seraient toujours élevés. On s'est rendu compte que ce n'est pas toujours le cas. Et quand il y a donc une crise, les outils qui auraient pu permettre d'en atténuer les effets n'existent plus.
Alors sur les remèdes maintenant, il y a un certain nombre d'annonces qui ont été faites par le gouvernement. Donc on a vu avec Jean-Jacques Manfrinato, donc éleveur de volaille, que ces annonces se traduisaient en actes, mais pas complètement. Alors moi j'ai trouvé beaucoup de choses quant à ces annonces. Je vais en reciter juste quelques-unes. En juillet 2015, donc il y a un premier plan d'urgence qui a été annoncé de 600 millions d'euros. Et puis plan d'urgence qui a eu, semble-t-il, un complément un peu plus tard. Si je ne me trompe pas, c'était en septembre 2015, 290 millions d'euros. Il y a eu des allègements de charges aussi. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire parmi les mesures qui ont été annoncées par l'État français? Si vous deviez nous faire un récapitulatif majeur, vous diriez quoi? Quels sont les remèdes qui ont été apportés en tout cas?
Bah, les remèdes, donc vous en avez parlé, il y a donc des allègements de charges, il y a des reports d'échéance d'emprunt en ce qu'on appelle en fin de tableau. Il y a quelques mesures justement d'encadrement ou de régulation qui ont été menées en France et en Europe, notamment au niveau du lait, où ils ont timidement commencé à reparler de régulation où chaque pays, sur la base du volontariat, pouvait s'engager à réduire sa production de lait notamment. Mais bon, c'est un peu un constat général des agriculteurs, ce sont un peu des pansements sur une jambe de bois. Reporter en fin de tableau des emprunts, il faudra quand même toujours les payer. Faire des prêts de trésorerie, puisqu'en fait les exploitations agricoles sont dans le rouge, n'ont plus de trésorerie, mais pour pouvoir continuer à produire, il faut acheter des semences, il faut acheter de la nourriture pour les animaux, on a besoin de liquidité de trésorerie, donc on met en place des prêts de trésorerie à des taux certes préférentiels, mais ça reste quand même des emprunts qu'il va falloir rembourser un jour ou l'autre. Donc pour le moment, les réponses
ne sont pas satisfaisantes,
et est-ce que ce sont vraiment les bonnes réponses? Quand on voit, je parlais que l'Union européenne avait donc mis fin à tous ces outils de régulation, il faut savoir que dans le même temps, je reprends un chiffre que j'avais sous les yeux, c'est que donc, l'Union européenne depuis 2008 a baissé de 20% les soutiens publics par habitant à l'agriculture. Dans le même temps, les États-Unis ont augmenté leur soutien à l'agriculture de 39%, le Brésil de 44% et la Chine de 145%. Ce sont ces pays-là se sont quand même rendus compte que l'agriculture, ce n'est pas que du marché, ce n'est pas que de la fourniture de produits, il y a aussi une dimension économique, une dimension... quand on est autosuffisant, c'est un outil, une arme même économique de premier plan. Mais ça, l'Union européenne n'a pas l'air de l'avoir pris en compte, contrairement à nos voisins chinois et américains.
Merci beaucoup Sébastien Garcia. Donc je rappelle, vous êtes journaliste pour le Trait d'Union Paysan. Merci pour ce panorama. On fait une deuxième pause musicale et puis après on va tous vous retrouver, particulièrement donc nos différents agriculteurs, pour une réaction sur cette deuxième partie très très didactique et très claire. Merci beaucoup. Mais on a envie de dire bon, et demain, parce que s'il y a juste un pansement sur une jambe de bois, sur une blessure plutôt, que faire avec cette blessure et cette jambe de bois? Merci beaucoup. Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, ce matin, donc, cette émission, où en est-on de la crise agricole? Si vous nous prenez en cours de route, je vous rappelle que nous sommes donc avec un certain nombre d'agriculteurs autour du plateau. Jean-Jacques Manfrinato, vous êtes éleveur de volailles. Alain Dufil, céréalier et diacre. Jean-François Doumingue, producteur laitier. Et puis, nos spécialistes en plateau qu'on ne présente pas, qui nous ont fait ce remarquable diagnostic et difficile diagnostic de la situation de la crise agricole actuelle. Vous, éleveur qui vous agriculteurs qui êtes autour du plateau, qu'est-ce que vous pensez des éléments qui ont été cités? Alors c'est vrai que ce qui ressort de cette conversation, c'est qu'il y a des causes, on va dire, conjoncturelles, que sont l'embargo russe, la mauvaise saison, les quotas laitiers, mais il y a aussi des causes structurelles, et ce que vous disiez en première partie, qui tiennent en fait au fait qu'on est dans un marché libéré et que vous êtes soumis à une concurrence, en fait, face à laquelle aujourd'hui vous ne voyez pas comment faire, parce que vous ne pouvez pas baisser continuellement vos niveaux de vie, et en même temps vous avez des contraintes importantes. Alors on lit pour les producteurs laitiers que, j'ai lu qu'entre 2000 et 2010, il y avait 34% des exploitations laitières qui avaient disparu en France, et puis on annonce que dans les 10 prochaines années, ce sera à peu près les mêmes chiffres. Quel pourrait être l'avenir pour vous de votre métier, pour imaginer que dans 5, 10, 15 ans, ou alors peut-être vos enfants, si vous en avez ou si vous en avez un jour, puissent continuer votre exploitation? Jean-François Doumingue.
Mais c'est vrai que l'avenir, voilà, aujourd'hui on se pose pas mal de questions, parce que continuer à avoir un prix du lait à ce niveau-là, il faut pas que ça dure éternellement, parce que même, je pense, d'autres pays ayant des charges, des coûts de production beaucoup plus bas que nous, c'est pas possible de passer, quoi. On n'est pas les seuls à produire à perte, mais nous encore plus que les autres. De notre fonctionnement général, du fait des charges qu'on a à payer, les contraintes environnementales, c'est pas durable, quoi.
Alors, quelle serait la solution, vous? Est-ce que producteur laitier, entre vous, quand vous en parlez, vous dites la solution c'est ça, et ce qu'on voudrait, c'est que les autorités et le grand public entendent la solution qu'on avance?
Après, la solution, je pense pas qu'il y en ait qu'une seule, quoi. Je pense qu'il faut mettre un peu de bon sens, on va dire, là-dedans. Déjà, qu'on arrête de nous imposer des choses qui n'ont ni queue ni tête. Ensuite...
En l'occurrence, par exemple?
En l'occurrence, toujours des nouvelles normes, des normes, on va dire, environnementales, de bien-être animal, tout ça. Un agriculteur, aujourd'hui, il est formé, il a été à l'école, il est diplômé, il ne s'installe pas comme ça sur un coup de tête. Je pense que...
Vous avez un exemple de norme récente qui vous semble absurde ou qui vous semble inutile?
La dernière en date, on fait aussi un petit peu de céréales. On a des bandes anherbées autour des cours d'eau qui permettent de faire un tampon, on va dire, naturel sur nos activités. Ce qui évite, on va dire, des écoulements de terrain, des bandes de tampons pour éviter que les cours d'eau soient, on va dire,
pollués
par ou de la terre, ou éventuellement ça rattrape un peu les produits phyto. Aujourd'hui, on parle de nous passer ces bandes à 20 mètres autour des cours d'eau, autour des bois et des maisons. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va cultiver comme terre demain, quoi?
Ça paraît pas beaucoup comme ça quand les exploitations sont très grandes, mais en fait, 15 mètres de plus sur une exploitation, c'est colossal.
Je peux vous prendre un petit exemple sur l'Haute-Garonne, ça ferait un tiers des surfaces qui seraient plus cultivées.
Alors, vous me disiez en préparant l'émission que pour revenir à la production de lait, pour vous, il y avait une solution, c'est-à-dire que pour le marché français, 60% des producteurs de lait travaillent pour le marché français, on va dire, et que du coup, cette production de lait, peut-être qu'il pourrait y avoir un prix français, et que les Français pourraient davantage acheter, s'aligner sur ce prix français. C'est en tout cas quelque chose pour lequel vous militez à titre personnel. Est-ce que c'est le cas de votre profession aussi?
Après, je pense que l'idée est là, quoi, dans la profession aussi. Aujourd'hui, le prix, Il faut savoir qu'une augmentation de 50 euros la tonne à un producteur, ça fait ramener au consommateur, c'est l'équivalent d'un centime sur un pot de yaourt. Donc c'est dérisoire. Nous, on demande de la lisibilité, on nous demande à nous de la traçabilité sur nos produits, de la, de la lisibilité, alors que au départ de la ferme et arrivé à l'étalage, la lisibilité n'y est pas, quoi. Donc je pense que avec
c'est-à-dire à l'étalage, excusez-moi, j'ai pas compris. C'est-à-dire que le producteur se rend pas compte, vous voulez dire de...
Il y a le producteur, bon, sait à quel prix le lait lui est acheté.
Oui, mais le consommateur ne sait pas, c'est ça?
Le consommateur, lui, ne le sait pas. Il sait le prix qu'il achète, mettons, sa brique de lait, son pot de yaourt.
Donc vous militez pour un prix français?
Mais je pense que ça serait plus juste que, au moins au niveau français, le lait qui est consommé en France, qu'il ait un prix, on va dire, rémunérateur. Et après, ça serait, je pense, logique aussi que ce qui est vendu à l'export soit payé au prix du cours mondial.
Parce que si je ne me trompe pas, il y a moins d'un tiers du prix que paye le consommateur qui va dans la poche de l'éleveur laitier.
Oh, c'est même moins que ça. Tu as, au jour d'aujourd'hui, on est payé à 27 centimes le litre. Tu vas acheter une brique en grande surface. Je ne sais pas si tu vas en trouver une en dessous de 62, 63 centimes, quoi.
Voilà, alors sachant que du coup, on l'a vu dans la seconde partie, hein, Lactalis, ces manifestations, voilà, il y a eu une espèce de hausse temporaire, une aide, mais bon, ça ne résout pas du tout la question. Alors même question pour vous, Alain, pour les céréaliers, je ne sais pas, comment vous imaginez votre métier à 5-10 ans, quel est l'avenir?
Moi, je pense qu'il y a un avenir, de toute façon, parce qu'il faudra toujours manger.
Oui, et puis on pourra passer
de terre agricole. Quand il y a des jeunes comme Jean-François qui sont installés, ils ont l'avenir devant eux. C'est certainement que ceux qui sont en fin de carrière, c'est eux qui ne seront pas remplacés. C'est pour ça que malheureusement, il y aura plein de fermes qui seront abandonnées ou reprises par d'autres. Mais si vous voulez, moi je vois dans mon métier, on ne va jamais assez sur les parcelles, voir ce qui se passe, aller à pied, faire un tour de plaine. On regrette toujours de ne pas y être allé avant pour voir les problèmes qui apparaissent et s'en occuper au bon moment. Eh bien, je crois que pour les décideurs, c'est très important qu'ils aient bien compris qu'il faut avoir les pieds sur terre. Les hommes politiques, les décideurs, il faut qu'ils aillent voir sur le terrain ce qui se passe. Et je vous propose deux points marquants. En 2015, la production mondiale de blé, elle était de 730 millions de tonnes. 730 millions de tonnes de blé pour le monde entier. La consommation du monde entier, elle a été de 733 millions de tonnes. Donc, il ne faut pas rigoler. La production, elle suit à peine la consommation. On n'a pas droit à un décrochage de la production. Sinon, il y aura de la famine et aussi les prix vont exploser. Il suffirait d'une étincelle pour que le marché se dérègle, d'un accident climatique quelque part un peu sérieux. En plus, avec le changement climatique, peut-être qu'il va avoir des impacts alimentaires quoi, sur les récoltes dans les années qui viennent. Donc, c'est quand même une question très, très sérieuse. Et l'autre chose, il me semble, c'est une illusion, l'illusion du bio. On pense que, j'entends des fois que si on passait en bio, il suffirait de travailler 3 jours par semaine et tout irait bien. Eh bien... moi, j'ai été maraîcher bio pendant 6 ans avant d'être céréalier. Je suis ingénieur agronome de formation. J'ai fait ça au sortir de l'école. Je travaillais autant qu'aujourd'hui, mais je gagnais à peine la moitié du SMIG. Donc, et tous les reportages que vous voyez sur des gens qui sont passés, ont fait un retour à la terre et qui sont en bio, ils parlent de salaire de la moitié du SMIG aujourd'hui. Donc, qu'on parle du bio en disant que peut-être c'est une solution, mais il faut tout dire. Il faut tout dire. C'est-à-dire que c'est un changement de vie complet. Pour les producteurs qui passeraient en bio, qui vont gagner la moitié du SMIG, et pour les consommateurs, il va falloir qu'ils passent la moitié de leur budget dans l'alimentation, comme c'était le cas dans les années 50.
Donc vous voulez dire que qui dit bio dit que c'est vendu plus cher, c'est ça? Donc il faut que chacun fasse un effort.
Voilà.
Et qu'en plus, pour ceux qui produisent en bio, en général,
passer en bio de façon importante, pas à la marge, ce serait un changement de vie complet de toute la société. C'est-à-dire, c'est revenir à un niveau de vie des années 50. Alors, je dis pas que peut-être que c'est ça qu'il faut faire, mais qu'on dise tout aux électeurs, aux consommateurs. Voilà.
Alors,
et cette illusion culpabilise les agriculteurs d'aujourd'hui, alors qu'ils ne sont qu'une partie d'un système général.
Ça, on comprend bien, c'est vrai. Mais vous, céréaliers, du coup, une fois que cette mise au point a été faite sur le bio, qu'est-ce que vous voyez comme solution? Puisque je repose la même question, c'est-à-dire que vous n'avez pas baissé votre niveau de vie, vous, Alain Dufil, parce que vous dites que vous êtes passé de... Vous avez demandé déjà une diminution de salaire. Oui. Vous êtes passé donc de 2200 à 1500. Et puis vous avez les contraintes que vous avez aujourd'hui, donc qu'est-ce que vous voyez comme solution, hormis le fait que je sais pas, que les Français acceptent de payer plus cher leurs céréales, qu'est-ce qu'il y a comme solution pour vous?
Ben, la solution c'est de qu'on ait les mêmes règles dans le monde entier et au moins à l'intérieur de l'Europe, et que s'il y a des règles différentes, eh bien qu'on protège nos frontières et qu'on rétablisse des droits de douane pour les produits qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas les mêmes normes, ou les mêmes normes sociales et aussi. Vous comprenez qu'on ne peut pas lutter si quelque part, celui qui fait le même métier que moi, eh bien, lui, il gagne sa vie et il arrive à survivre avec 100 euros par mois, même si c'est une vie très modeste, et nous, il faut 10 fois plus.
Alors là-dessus, j'avais une question, c'est qu'on entend souvent parler, enfin il y a eu toute une polémique à une époque autour de l'histoire du plombier polonais. Alors en fait, ce que ça disait, c'est qu'il y a une forme de dumping social, c'est-à-dire que là, c'est carrément des gens en fait qui viennent des pays de l'Est, qui viennent travailler en France, mais payés au prix, au prix polonais. Est-ce que dans le monde agricole, c'est des choses qui commencent à arriver, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent de l'étranger, qui travaillent les exploitations agricoles, mais qui sont payés au prix de leur pays, ou c'est pas quelque chose que vous voyez pas encore?
Je crois que c'est possible en Espagne, je crois que c'est possible en Allemagne, mais je pense qu'en France, c'est impossible. Les éleveurs, la production de pommes, elle a beaucoup baissé en France, parce que justement, pour ramasser les pommes, en France, on n'a pas le droit de payer les gens à 5 euros de l'heure. Heureusement, quelque part. Mais le résultat, c'est que la production de pommes en France, elle s'est effondrée.
Alors, Jean-Jacques Manfrinato, même question pour vous. Qu'est-ce que vous inspire tout ce qui a été dit précédemment? Et puis, comment vous voyez l'avenir de votre métier et quelle solution vous voudriez partager avec les auditeurs, éventuellement peut-être des responsables politiques qui nous écoutent?
Solution, pas facile. Il y a beaucoup de choses à revoir dans le système français. Je suis d'accord avec mes collègues. Il faudrait qu'on soit tous sur le même piédestal. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Ne serait-ce que niveau normes, vous parliez tout à l'heure, vous posiez la question à mon ami Jean-François, là, en ce qui concerne normes...
Allez-y, continuez. Attention avec vos stylos, parce qu'on vous entend l'antenne.
En ce qui concerne normes françaises, nous, après l'étape qu'on a vécue pendant ce vide sanitaire, au jour d'aujourd'hui, on nous impose de restructurer toutes nos exploitations, et on est encore parti sur des frais...
C'est-à-dire ? Suite à la grippe aviaire,
un plan au jour d'aujourd'hui qui s'appelle le plan biosécurité de toutes les exploitations avicoles françaises, qui consiste simplement à avoir des exploitations, ce sont des coffres-forts, quoi. Personne d'extérieur ne peut rentrer, une aire de lavage systématiquement à l'entrée des exploitations pour les camions, donc tout ça, ça a un coût, une restructuration complète. Et au jour d'aujourd'hui, ben voilà, un exemple encore de nouvelles normes françaises.
Dans ces cas-là, qui dit norme dit qu'on vous donne de l'argent, ou il faut juste que vous empruntiez auprès des banques encore, que vous endettiez pour arriver à vous mettre aux normes?
Il y a une aide.
Qui couvre l'ensemble des frais engendrés?
Qui couvre tout juste 20% des frais engendrés, et puis le reste de l'aide, ben c'est la banque, voilà. Donc, comme disait Alain tout à l'heure, tant que les banques vont suivre, parce qu'on a des exploitations qui tiennent la route, tant que les banques suivront, ça ira. Le jour, on ne pourra plus payer, les banques opéreront des saisies, elles savent qu'on en est bien. Voilà, au jour d'aujourd'hui, moi, pour produire, je suis obligé de me remettre aux normes.
Donc, ce que vous appelez de vos voeux, c'est que, entre guillemets, on se détende sur les normes, ou alors que tout le monde en Europe ait les mêmes normes, et qu'en tout cas, il n'y ait pas de concurrence déloyale sur le marché français, c'est ça?
Alors d'un côté, la France, elle est draconienne au niveau des normes, et de l'autre côté, les autres pays ne sont pas impactés par ces normes-là, quoi. Voilà, c'est sans fondement, quoi. Ça n'y que ni tête. Je pense qu'on est trop... on a trop de contraintes.
Alors Alain Dufil, pour finir cette émission, donc, je disais en introduction que vous êtes diacre aussi, donc on imagine que l'Église... à chaque fois, l'Église essaye de se faire proche des hommes, de tout à chacun, donc vous, de ce monde agricole. Est-ce qu'il y a une pastorale particulière du monde agricole? Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez juste de vous rendre proche de tout à chacun, ou est-ce que ça implique aussi peut-être une action politique?
La pastorale, c'est tout simplement d'être là, d'écouter, d'être attentif, qu'au moins... il faudrait que partout, si des agriculteurs se dirigent vers l'Église, qu'ils soient bien accueillis et qu'on les prenne en considération. On ne peut pas le faire toutes les 5 minutes. Une fois, Mgr Le Gall est allé à une manifestation agricole, ça a été très bien ressenti. Et bien, je pense que c'est bien qu'un évêque aille de temps en temps se mettre avec les gens qui ont des soucis, mais ça ne peut être qu'un exemple. Parce que le plus important, c'est que ce soit les décideurs politiques qui aillent voir. Franchement, très souvent, les agriculteurs, par le biais de leurs organismes professionnels, de la Chambre d'agriculture par exemple, organisent des visites d'exploitation, des rencontres avec les députés. Et il y a très très peu d'élus qui font le déplacement. Et pourtant, c'est, je pense, très profitable pour les élus d'aller à la rencontre que leur proposent les agriculteurs, dans une ambiance conviviale en plus.
Alors vous dites que c'est pas le rôle de l'Église, c'est vrai que l'Église n'a pas d'abord un rôle politique, mais c'est vrai est-ce qu'on entend les évêques tirer la sonnette d'alarme? Est-ce que aussi ça leur arrive de pousser un coup de gueule?
Je crois que c'était arrivé au moment de la crise laitière que des évêques de l'ouest de la France avaient pris position. Je pense que...
Et au moment du salon de l'agriculture, si je ne me trompe pas. Peut-être. On en avait parlé lors de la précédente émission, je crois.
Voilà. Alors, voilà, attirer l'attention, participer à attirer l'attention, être à l'écoute. Je pense que c'est déjà pas mal.
Merci beaucoup à tous nos invités d'être venus nous parler donc de cette crise agricole, de faire ce point d'étape. Et puis, on vous souhaite vraiment bon courage et on vous réinvitera et on tiendra nos auditeurs informés pour essayer de... d'aider à ce que tout à chacun soit conscient de ce qui se passe tout près de nos villes ou chez nous dans nos campagnes. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.